Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Historien de langue grecque, fidèle de l'empereur Adrien, Flavius Arien vécut au IIe siècle de notre ère. Après avoir exercé de hautes fonctions administratives et militaires au sein de l'Empire romain, il se retira à Athènes pour se consacrer à l'écriture d'ouvrages d'histoire, notamment une Anabase d'Alexandre, soit l'une des plus anciennes descriptions des campagnes militaires d'Alexandre le Grand. En 1984, à l'occasion de la parution de ce texte aux éditions de Minuit, dans une traduction de Pierre Savinus, à laquelle était adjointe une étude de Pierre Vidal-Naquet, Jean Montalbetti consacrait trois volets de l'émission Les Inconnus de l'Histoire à ce personnage de l'Antiquité. Dans le deuxième volet, les historiens Pierre Vidal-Naquet, Pierre Briand, Henri Tonnet et Paul Goukowski présentaient la manière dont Arien avait procédé pour reconstituer les principaux épisodes de la conquête de l'Asie par Alexandre, événement majeur de l'histoire universelle, comparable à la découverte de l'Amérique ou à l'aventure napoléonienne. Les Inconnus de l'Histoire, Flavius Arien, deuxième épisode, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 mars 1984.
Unknown people in history.
Disconosciuti nella storia.
La storia dos desconosciuti.
Unbekannte der Geschichte.
L'uomo non si rende conto.
The unknowns of history.
Les inconnus de l'histoire. Enquête sur un grec d'Orient, militaire de l'Empire romain d'Adrien et historien d'Alexandre le Grand. Flavius Arien par Jean Montalbetti, médiateur Pierre Vidal-Naquet. Experts Henri Tenet, Pierre Briand, Paul Goukowski, avec la voix de Philippe Moreau dans les textes de l'Anabase d'Alexandre de Flavius Arien. Réalisation Jean-Claude Loiseau.
Callisthène prit la parole et dit « Les hommes ont établi de nombreuses distinctions entre les honneurs qui conviennent aux hommes et ceux qui conviennent aux dieux. Par exemple, c'est pour les dieux que nous construisons des temples, élevons des statues. C'est aux dieux que nous réservons les enclos sacrés. C'est à eux que nous offrons sacrifices et libations. C'est à leur intention que nous composons des hymnes, mais à l'intention des hommes, des éloges. Cependant, c'est l'usage de la prosternation qui constitue la plus importante distinction. En effet, les hommes reçoivent de ceux qui les abordent un baiser. Mais la divinité, parce qu'elle est assise plus haut et qu'il est sacrilège de la toucher, est honorée précisément pour cette raison, par la prosternation. C'est pour les dieux aussi que sont montés des chœurs et les péants sont chantés en leur honneur. Rien d'étonnant, puisque même entre les dieux, il y a des distinctions dans les honneurs qu'on leur rend. Et par Zeus, il y en a même entre les héros, et entre eux et les dieux. Il n'est donc pas raisonnable de brouiller tout cela en donnant à l'homme une dignité surfaite par des honneurs excessifs, et en rabaissant les dieux, autant que cela dépend des hommes, à une humilité choquante par des honneurs tout juste égaux à ceux des hommes. Alexandre ne supporterait pas qu'un simple particulier se fasse attribuer des honneurs royaux par une élection à main levée ou par les urnes, contraire à la justice. Combien plus légitime serait l'indignation des dieux contre des hommes qui s'attribueraient des honneurs divins ou souffriraient que d'autres les leur attribuent. Callisthène, rapporté par Flavius Arien.
« Pierre Vidal-Naquet, un grec d'Orient, Lucius Flavius Arianus, philosophe, historien, militaire, homme politique aussi, que nous appellerons tout simplement Flavius Arien, qui a vécu au IIe siècle de notre ère dans l'Empire romain de Trajan et d'Adrien, s'installe à Athènes vers le milieu du IIe siècle. Athènes, dont il deviendra d'ailleurs l'archonte éponyme en 145-146, après avoir été 10 ans plus tôt le représentant de l'empereur en Cappadoce. Alors d'abord, quelle est la place d'Athènes dans cet empire romain du IIe siècle, quelques années après la disparition de l'empereur Philhellène Adrien, qui est mort en 138.
Athènes, si vous voulez, c'est une sorte de refuge, de lieu officiel pour l'Empire romain de la culture. C'est, si vous voulez, une Villa Médici à l'échelle de l'Empire tout entier. On ne s'en rend pas toujours compte, mais l'Athènes que nous voyons, c'est l'Athènes de l'époque d'Adrien autant que celle de Périclès. On ne s'en rend pas compte pour deux raisons. La première, c'est qu'on nous parle en classe beaucoup plus de l'Athènes de Périclès que de l'Athènes d'Adrien. La seconde est que l'art de l'époque d'Adrien imite fondamentalement, selon cette règle de la mimésis dont nous avons déjà parlé, de l'imitation, cet art de l'époque d'Adrien imite l'art de l'époque de Périclès et même ou de l'époque antérieure. On en a un exemple absolument flagrant avec le temple de Zeus Olympien qui est commencé sous Pisistrate à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ et qui est achevé en fin de compte sous Adrien et dont les colonnes gigantesques se dressent encore dans l'Athènes d'aujourd'hui. La seconde raison pour laquelle l'Athènes que nous voyons est encore celle d'Adrien, c'est que le récit de Pausanias se situe vers cette époque.
Description de la Grèce.
La description de la Grèce, et tout particulièrement la description de l'Attique qui ouvre cette description de la Grèce. Or, c'est ce récit de Pausanias, cette description de Pausanias, qui est notre guide blanc encore aujourd'hui, puisque les archéologues qui ont travaillé à Athènes ont cherché au fond à vérifier l'œuvre de Pausanias. Ajoutons-y, si vous voulez, que si nous allons au spectacle dans l'Athènes d'aujourd'hui, nous verrons ce spectacle très souvent dans l'Odéon d'Hérode Atticus, qui est le seul théâtre antique qui fonctionne aujourd'hui à Athènes. Or, Hérode Atticus, c'est un milliardaire du milieu du second siècle après Jésus-Christ, qui a fait bâtir cet Odéon comme libéralité, qui a fait bâtir aussi quantité de choses dans Athènes, et c'est le lieu où les sectes philosophiques ont toutes leur capitale, n'est-ce pas ? Ce n'est qu'au siècle suivant que l'école d'Alexandrie sera vraiment florissante, enfin à la fin du second siècle déjà, mais les épicuriens, les platoniciens, c'est-à-dire les gens de l'académie, les stoïciens, tous ont pour capitale Athènes, et on a même pu supposer, de façon un petit peu incertaine, qu'Arien avait été précisément chargé par l'empereur de surveiller ces sectes philosophiques, toujours plus ou moins soupçonné à tort au second siècle de rébellion, puisqu'après tout Athènes pour la dernière fois s'était rébellée au moment de Mithridate sous la conduite d'un philosophe.
Hymnon exar hon kalansumi sas honan hospur pletusais actinas haitais tepsas latus Doxalkes haminas, matros loban. Kledon, aianes hasbes tontimato, fos, to Zeus da duchei, stilmnan alaxas au gan. Togas en bolois, sansoitelontai kartoi.
Pierre Vidal Naquet, l'Anabase d'Alexandre, écrite par Flavius Arien, couvre finalement une courte période, 336 à 323, c'est-à-dire 13 années seulement, mais 13 années de la vie d'Alexandre, qui vont donc de l'assassinat de son père, Philippe de Macédoine, le moment où lui-même devient roi de Macédoine et très vite le stratège suprême des Hellènes, jusqu'à sa propre mort, c'est-à-dire sa mort à Babylone en 323.
Je dirais, ou bien roi tout court, car il est le roi Alexandre, il concentre dans sa personne l'idée royale, ou bien, si l'on parle de la Macédoine, il est roi des Macédoniens. C'est ce que montrait jadis mon maître André Aymar en disant qu'il y avait deux conceptions de la monarchie à l'époque hellénistique, cette époque initiée en quelque sorte par Alexandre, la monarchie personnelle, c'est-à-dire celui qui porte le titre de roi. Les Ptolémées ne seront pas rois d'Égypte, ni rois des Égyptiens. Ils seront chacun le roi Ptolémée, dont la capitale est à Alexandrie. Et même si cette capitale se réduisait à un mouchoir de poche, il restait encore le roi Ptolémée, comme Napoléon était empereur à l'île d'Elbe. Et puis, vous avez les monarchies traditionnelles, dont le prototype est la monarchie macédonienne, et le titre de Philippe et d'Alexandre, à ce point de vue-là, était roi des Macédoniens.
Alors, Flavius Arien est un historien qui travaille à partir des sources contemporaines de l'existence et de l'œuvre d'Alexandre. Il est pourtant extrêmement présent dans son histoire, dans son récit, présent par ses jugements, il emporte, par ses réactions, je dirais presque aussi par ses émotions.
Chez Arien, il y a en effet cette référence fondamentale à Ptolémée et à Aristobule, avec ce principe, n'est-ce pas ? Lorsque tous les deux sont d'accord, je considère que tout va bien. Alors naturellement, il intervient de façon critique, mais il intervient de façon critique, si je puis dire, lorsque ces deux sources ne sont pas d'accord. Alors, il choisit l'une ou l'autre, ou bien il ne choisit pas, ou bien il fait appel très rarement à ce que vous appelez la chronique, n'est-ce pas, que lui appelle ce qu'on dit, les on dit ta legomena, en grec. C'est plus apparemment novateur que réellement novateur, parce que malgré tout, si vous voulez, on peut imaginer parfaitement aujourd'hui que Ptolémée et Aristobule mentent tous les deux. Pourquoi pas ? Ce qui est un petit peu candide, si vous voulez, à ce point de vue-là, chez Arien, c'est lorsqu'il nous dit Ptolémée est un roi, donc il nous dit la vérité. Non, aucun d'entre nous ne dirait une chose pareille. Et si vous voulez, quand à propos de la mort du neveu d'Aristote, Callisthène, certaines des sources d'Arien nous disent qu'il n'est pas sûr qu'il ait été torturé, eh bien, nous n'avons pas l'habitude aujourd'hui de croire les États quand ils nous disent, ou les rois, quand ils nous disent que tel ou tel personnage n'a pas été torturé.
Je parlais aussi de son émotion, je pense notamment à un passage. Lorsque Alexandre se saisit de Bessus, le proche parent de Darius III, qui l'a trahi, qui l'a emmené en otage et finalement fait assassiner, ce qui semble révolter complètement Alexandre, qui le traite à la fois en adversaire, puisqu'il s'est saisi de la couronne après la mort de Darius, mais qui le châtie, semble-t-il, davantage pour sa trahison à l'égard de Darius. Et il le fait torturer, on a là aussi deux versions sur les sévices employé par Alexandre, et on sent justement le désaccord, par exemple là, de Arien, qui trouve que cette cruauté n'ajoute rien
à la gloire d'Alexandre. Il y a plusieurs niveaux d'émotion là-dedans. Il y a d'une part, effectivement, l'émotion devant la trahison d'un roi par un de ses proches parents, un de ses subordonnés, qu'il l'assassine dans des conditions horribles. Et il y a aussi l'émotion devant le fait, bien connu de toute la tradition, qu'Alexandre se comporte lui-même désormais en monarque oriental. C'est-à-dire que on a là une des pièces de ce fameux procès fait à Alexandre par toute une partie de la tradition. Alexandre est devenu perse. Alexandre s'est orientalisé.
S'est barbarisé.
S'est barbarisé. Et la façon dont il tue Bessos ou Bessus, c'est justement un des signes. Alors, il ne faut pas oublier que pour la cité grecque, dont Arien est quand même aussi l'héritier, on ne torture pas un citoyen. On ne torture pas un homme libre. On ne torture qu'un esclave.
Alexandre, ayant convoqué une réunion des présents, fit amener Bessus devant eux. Après lui avoir reproché d'avoir trahi Darius, il donna l'ordre de lui trancher le nez et les oreilles, puis de le conduire à Ecbatane pour le mettre à mort là-bas devant l'assemblée des Mèdes et des Perses. Eh bien moi, loin d'approuver ce châtiment excessif de Bessus, je juge barbare cette mutilation des extrémités. Et je reconnais qu'Alexandre s'est laissé entraîner à rivaliser avec la richesse des Mèdes et des Perses, et avec l'habitude des rois barbares de maintenir l'inégalité entre eux et leurs sujets, pour les rapports de tous les jours. Et je ne loue absolument pas le fait qu'étant un descendant d'Héraclès, il ait adopté la tenue mède au lieu de la tenue macédonienne de ses ancêtres, et qu'il n'ait pas eu honte d'échanger pour la tiare perse des vaincus les coiffures que lui, le vainqueur, portait depuis toujours. Je ne vois là rien à louer, au contraire. Les hauts faits d'Alexandre, plus que toute autre chose, font la preuve, selon mon jugement, que ni la force physique, ni l'éclat de la race, ni des succès militaires continus et encore plus grands que ceux d'Alexandre, même pas si un conquérant ajoutait la Libye à l'Asie, après en avoir fait le tour par mer, comme Alexandre en eut effectivement l'intention, même s'il ajoutait à l'Asie et à la Libye l'Europe comme troisième acquisition, rien de tout cela n'est de quelque utilité pour le bonheur de l'homme. Si l'homme, qui a accompli des hauts faits à ce qu'il semble, ne possède pas en même temps la maîtrise de ses passions.
Pierre Briand, vous êtes professeur à l'université de Toulouse 2. Vous avez consacré votre thèse à l'un des Diadoques, Antigone le Borgne, et vous avez également publié un ouvrage sur Alexandre. À travers le portrait fait par Flavius Arien, le portrait d'Alexandre fait dans l'Anabase, on aperçoit des traits, peut-être parfois contradictoires, en tout cas complexes, du caractère d'Alexandre, complexes parce qu'il ne s'agit pas d'une stricte apologie du héros, il est même parfois négatif ce portrait, et vivement critique par exemple lorsque il juge Alexandre incapable de maîtriser ni la colère ni l'ivrognerie. Mais au fond, plus largement, en dehors du texte d'Arien, si on se reporte aux historiens d'Alexandre qui ont précédé Arien, quel portrait d'Alexandre le Grand pourriez-vous faire ?
Ce portrait d'Alexandre est évolutif dans la chronologie. C'est-à-dire que, d'une façon générale, les auteurs d'Alexandre ont mis en avant ce qu'ils appellent une évolution d'Alexandre à partir surtout, disons, de la mort de Darius, c'est-à-dire en juillet 330, disons 4 ans après le début de la conquête. Ils mettent en avant ce qu'ils appellent l'orientalisation d'Alexandre, à partir du moment où Alexandre, soucieux d'attirer à lui les Iraniens, se moule de plus en plus dans les cadres institutionnels, politiques, de l'ancienne monarchie perse, donc qui vient de disparaître, en adoptant le vêtement royal, en adoptant surtout les usages auliques de la cour achéménide, qui font du roi un roi très, très lointain de ses sujets. Ce qui est en contradiction avec l'image traditionnelle et les pratiques du roi achéménide. À partir de ce moment-là, effectivement, les auteurs d'Alexandre commencent à le juger d'une façon différente, jugeant effectivement qu'il n'est plus en accord avec les normes macédoniennes, qu'ils s'orientalisent, et à ce moment-là, alors, reviennent sous leurs plumes toutes sortes de poncifs sur les monarchies orientales, s'adonnant à la mollesse, à la luxure, étant de plus en plus lointain.
Et, alors, c'est le cas sous la plume d'Arien, qui, par exemple, accuse très nettement Alexandre de se livrer à la beuverie, de prendre les habitudes des barbares.
Absolument.
Et d'autre part, alors, il y a d'autres traits aussi qui se dégagent du récit d'Arien, et d'Arien historien, cette fois plus seulement moraliste. Oui. Il y a tout de même un massacreur chez Alexandre, massacreur, par exemple, à Massaga, en Inde, des Indiens assasséniens qu'il fait massacrer la nuit pour empêcher les défenseurs de la ville de fuir la ville parce qu'il refusait de s'engager dans l'armée d'Alexandre et donc d'avoir éventuellement à se battre contre d'autres Indiens. Ou bien il y a le châtiment de la révolte de Sangala à l'automne 326 qui est également d'une grande cruauté. Je ne parle pas d'épisodes de torture comme par exemple le châtiment de Bessus qui avait trahi Darius.
Oui, c'est vrai, mais je crois qu'il faut faire la part aussi dans ces épisodes de ce que les auteurs anciens, disons que les gens d'Antiquité, considéraient comme normal dans ce qu'ils appelaient eux-mêmes les lois de la guerre, qui permettaient aux vainqueurs de déporter, de tuer les populations vaincues, de raser la ville si bon lui semblait. Cela faisait partie des lois de la guerre. Il est vrai qu'à propos de Bessos, Arien émet un jugement très défavorable sur la conduite d'Alexandre. Mais en l'occurrence, Alexandre n'a fait que reprendre à son compte, et cela parfaitement compréhensible dans la logique même de sa conquête, n'a fait que reprendre à son compte des usages perses en faisant couper le nez et les oreilles de Bessos, qui était la manière perse de dégrader ou de punir un rebelle. Et je ne suis pas sûr que, d'une façon générale, Arien juge moralement d'une façon défavorable Alexandre, y compris lorsqu'Alexandre prend des mesures très, très dures à l'égard de ses propres compagnons, en Sogdiane Bactriane, lorsqu'ils mettent en jugement et fait assassiner ou fait exécuter, comme on veut, d'abord Philotas, puis son père Parménion, et ensuite Callisthène, l'un de ses plus proches amis. Cela n'empêche pas, globalement, de porter un jugement très favorable sur Alexandre. Je ne crois pas qu'il y ait de la part d'Arien une condamnation morale globale d'Alexandre.
Les femmes et les enfants de beaucoup de combattants furent pris au roc de Sogdiane, et en particulier la femme et les fils d'Oxyarthès, dont l'une était en âge de se marier. Elle s'appelait Roxane, et ceux qui ont fait campagne avec Alexandre disaient que c'était la plus belle femme qu'ils aient vue en Asie après l'épouse de Darius, et que dès qu'Alexandre la vit, il en tomba amoureux. Bien qu'amoureux d'elle, il ne voulait pas la violer en tant que captif de guerre, mais considérait que l'épouser n'était pas pour lui dérogée. Et quant à moi, je loue plus que je ne blâme cette façon d'agir d'Alexandre. Pour ce qui est de la femme de Darius, qui passait pour la plus belle des femmes d'Asie, ou bien il ne la désira pas, ou bien il sut maîtriser ses passions, bien que jeune et au plus fort de ses succès, le moment où les hommes sont portés à la démesure. Lui respecta et épargna cette femme, faisant preuve d'une grande maîtrise de lui-même, en même temps que d'un souci nullement déplacé de sa réputation. Et à ce propos, le bruit s'est répandu que, après la bataille qui eut lieu à Issos entre Darius et Alexandre, l'eunuque chargé de veiller sur l'épouse de Darius s'était échappé et avait rejoint Darius. En le voyant, Darius lui avait demandé en premier lieu si ses filles, sa femme et sa mère étaient en vie. Ayant appris que oui, et qu'elles avaient le titre de reine, qu'on leur assurait le même service que celui dont elles bénéficiaient à la cour de Darius, il avait posé là-dessus une nouvelle question. Sa femme lui était-elle restée fidèle? Ayant appris qu'elle l'était restée, il avait demandé encore si elle n'avait pas subi de violence de la part d'Alexandre. Et l'eunuque avait répondu sous la foi du serment « Roi, elle est comme tu l'avais laissée, et Alexandre est l'être le meilleur et le plus maître de ses passions de tous les hommes. » À ces paroles, Darius avait tendu les mains vers le ciel et fait cette prière « Ô Zeus, roi, toi à qui a été remis le soin de diriger les affaires des rois parmi les hommes, protège à cette heure de toute ta puissance mon pouvoir sur les Perses et les Mèdes, de même que tu me l'as accordé. Mais si je ne suis plus du tout pour toi le souverain de l'Asie, ne transmets mon pouvoir à personne d'autre qu'à Alexandre. » tant il est vrai que même des ennemis ne sont pas insensibles aux marques de vertu.
Patros apopianum varia peos.
Henri Tenet, vous êtes professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous avez consacré votre thèse à Flavius Arien, sa personnalité et ses écrits. Pour quelle raison ce militaire de formation philosophique, qui a été élève des stoïciens, s'intéresse-t-il plus de 4 siècles plus tard à l'histoire d'Alexandre ? Est-ce qu'il y a une explication que l'on pourrait dire aujourd'hui idéologique qui soit propre au contexte et à la situation de l'Empire romain sous Adrien ?
Alexandre, au IIe siècle, n'était pas seulement un problème historique, c'était aussi un problème moral. Du fait de la constitution de ce groupe de textes qu'on appelle la Vulgate, du fait de l'élaboration philosophique de ce groupe de textes, pour en extraire un certain nombre d'exemplats illustrant des vérités philosophiques, comme la corruption d'un homme naturellement bon par son succès constant, par sa fortune, encore l'idée que les passions corrompent l'homme et qu'Alexandre se trouvait en proie à 2 passions principales, l'irascibilité et la passion pour le vin. Toutes ces idées-là qui avaient cours dans les écoles philosophiques, soit chez les péripatéticiens, soit surtout chez les stoïciens, ou ce courant plus vague qu'on peut appeler cynico-stoïcien, faisait que Arien, écrivant au second siècle, ne pouvait pas ne pas prendre position dans cette querelle. Il aurait pu, comme l'a fait Plutarque, se livrer à une apologie d'Alexandre, montrer qu'Alexandre, loin d'avoir été corrompu par sa fortune, loin d'avoir été inférieur à sa tuque, avait été au contraire plus grand qu'elle, avait été le civilisateur, avait été l'instrument choisi par la Providence pour faire progresser la civilisation. Cette thèse de Plutarque est développée soit dans la vie parallèle de Plutarque, vie d'Alexandre parallèle à la vie de César, soit aussi dans un opuscule sur la fortune d'Alexandre, que l'on étudie moins, mais qui est plein de renseignements très intéressants sur cet aspect philosophique des choses. Arien, il faut voir quelle était sa formation. Arien, vous l'ignorez pas, dans les années 108-110, a été l'élève d'Épictète. Arien ne pouvait donc pas, comme Plutarque, adopter un point de vue non canonique dans la perspective stoïcienne sur Alexandre. Ça lui était impossible. Il jouait plus serré, d'une certaine façon. Il fallait, et c'était là l'acrobatie, si je puis m'exprimer ainsi, il fallait, tout en restant conforme à l'enseignement stoïcien, plus concrètement à l'enseignement d'Épictète, se livrer à une apologie d'Alexandre. Alors voilà comment Arien a procédé. D'une part, il a emprunté aux Légomena, à la Vulgate, un certain nombre d'anecdotes qui étaient des topoi classiques sur la corruption progressive du roi par la barbarie. À l'intérieur même de ce système d'explication, il a cherché à minimiser la responsabilité du roi. De quelle façon ? Eh bien, en montrant que les victimes de la cruauté du roi n'étaient pas innocentes. En montrant que Callisthène, qui avait été mis à mort par ordre d'Alexandre, cet historien philosophe, était aussi un vantard, et qu'il prétendait en particulier que c'était lui, Callisthène, qui allait dans l'avenir donner de la gloire au roi Alexandre. En montrant d'autre part que constamment il y avait dans l'entourage du roi, quelquefois même très près de lui, des conseillers, de mauvais conseillers, qui étaient même quelquefois des philosophes, comme Anaxagore, et qui avaient fait croire au roi qu'il était au-dessus de la morale. Donc la responsabilité se déplaçait d'Alexandre lui-même sur ses conseillers. Mais d'autre part, et ça c'est peut-être plus subtil et plus intéressant, Arien a montré que dans l'optique même de la morale stoïcienne, Alexandre se situait à un niveau qui lui permettait d'espérer accéder à la sagesse. Vous savez que dans la morale stoïcienne, il y a les stulti, si vous voulez, ceux qui ne sont pas sages, et puis les sages. Mais tout l'enseignement du stoïcisme romain, depuis Musonius Rufus jusqu'à son élève Épictète, a consisté à montrer que l'on pouvait définir une catégorie intermédiaire entre les non-sages, les stulti en latin, et les sophi, enfin les sophoi, les sages en grec. Ce sont ceux que Épictète appelle oi prokoptontes, ceux qui sont en marche vers la sagesse.
Roi Alexandre, chaque homme n'a de terre que le morceau sur lequel nous sommes installés, et toi, tu ne te distingues en rien des autres hommes. Sauf que, agité et follement orgueilleux, tu t'es éloigné de la terre de tes pères et tu as parcouru la terre entière en te créant des ennuis et en suscitant aux autres. Et pourtant, bientôt tu seras mort, et tu ne posséderas de terre que ce qu'il faut pour inhumer ta dépouille. Sur le moment, Alexandre approuva ce qui était dit et ce qu'il avait dit, mais cela ne l'empêcha de faire tout le contraire de ce qu'il avait approuvé. Car il avait admiré, dit-on, même Diogène de Sinope. Il était tombé dans l'isthme sur Diogène, étendu au soleil. Alexandre s'était arrêté avec ses hypaspistes, ses compagnons d'infanterie, et lui avait demandé s'il avait besoin de quoi que ce fût. À quoi Diogène avait répondu qu'il n'avait besoin de rien, mais lui avait demandé à lui et à ses amis de sauter de son soleil. Ainsi, il est bien évident qu'Alexandre n'était pas totalement étranger à la recherche du bien, mais qu'il était dominé par la violence de sa passion pour la gloire.
Lorsque le roi se trouve en face d'un sage, et à deux reprises, c'est le cas dans la geste d'Alexandre, lorsqu'au départ, Alexandre se trouve devant Diogène, lorsque, presque à l'arrivée aux Indes, il se trouve devant les gymnosophistes, en particulier Dandamis et Calanos, eh bien, le philosophe, entre guillemets, arien, reconnaît avec beaucoup de fermeté que de toute façon, le roi, avec un grand R, est inférieur au sage, avec un grand S. Et Diogène, aussi le gymnosophiste, font la leçon au roi. Ils font la leçon en montrant que les valeurs poursuivies par le roi, la doxa, qui veut dire à la fois gloire et aussi opinion, et qui est une notion négative, cette valeur de la conquête qui n'a pas de fin, qui se nourrit d'elle-même, cette valeur-là est un pathos, quelque chose que l'on subit, une passion, et que donc le roi, qui ne peut pas se contenter de ce qu'il a, est inférieur au philosophe qui, lui, est, à sa façon, roi, parce qu'il est le maître de tout ce qu'il a. Donc, dans l'optique stoïcienne, Alexandre ne peut pas être un substitut du sage. Il n'est pas un sage. Mais il n'est pas non plus, ce qu'il apparaissait dans la tradition hostile, de la Vulgate hostile, il n'est pas non plus un tyran. Il est entre les deux. Il est un proficiens, comme on dit en latin, un prokopton, comme on dit en grec, quelqu'un qui est en marche vers la vertu.
Darius franchit les montagnes par les portes appelées Amaniennes, marcha sur Issos et arriva dans le dos d'Alexandre sans être vu. Il occupa Issos et, ayant mis la main sur tous les Macédoniens qui avaient été laissés comme malades, il les fit cruellement torturer, puis mettre à mort. Le lendemain, il fit mouvement vers le fleuve Pinaros. Lorsqu'Alexandre eut entendu dire que Darius était sur ses arrières, comme cette information ne lui paraissait pas digne de foi, il fit embarquer quelques compagnons à bord d'un navire à 30 rameurs et les envoya à l'arrière vers Issos pour voir si la nouvelle était vraie. Ils gagnèrent donc le large à bord de ce bateau, et comme la mer à cet endroit forme un golfe, ils n'eurent aucune peine à constater que le camp des Perses était bien là. Et ils revinrent annoncer à Alexandre que Darius était tout prêt. Alexandre convoqua alors les généraux, les chefs d'escadron, les commandants des alliés, et les exhorta à puiser leur confiance dans les périls déjà glorieusement abordés par eux-mêmes, et dans le fait que le combat allait se livrer entre eux, les vainqueurs, et ceux qu'ils avaient vaincus. Dans le fait aussi, ajouta-t-il, que la divinité manœuvre pour nous, puisqu'elle a donné l'idée à Darius, alors qu'il était dans une plaine largement ouverte, de venir coincer ses troupes dans un passage étroit où la phalange a bien de quoi se déployer, tandis que la supériorité numérique de l'ennemi ne lui servira à rien pour le combat. Et quant au physique et au moral, ils ne peuvent soutenir la comparaison avec nous. Ce sont des Macédoniens qui vont en venir aux mains avec des Perses vivant depuis longtemps dans le luxe, tandis que les Macédoniens sont depuis longtemps déjà rompus au danger, au milieu des fatigues de la guerre. Ce sera surtout la lutte des esclaves contre des hommes libres. Et dans la mesure où des Grecs seront en face d'autres Grecs, ils ne combattront pas pour le même enjeu. Ceux du camp de Darius vont risquer leur vie pour un salaire, et même pas un bon salaire. Ceux de notre camp vont défendre la Grèce en volontaire. Pour ce qui est des barbares, nous allons mettre en ligne des Thraces, des Péoniens, des Illyriens, des Agrianes, les peuples les plus robustes et les plus belliqueux d'Europe, contre les races les plus indolentes, les plus efféminées d'Asie. En outre, c'est Alexandre qui commande contre Darius.
Pierre-Vidal Naquet, l'anabase d'Alexandre, le récit d'Arien, est évidemment essentiellement une chronique de ses hauts faits militaires. Alors, quel stratège se révèle être Alexandre au cours de ses récits, notamment à travers les grandes batailles qu'il va mener, trois grandes batailles essentiellement contre les Perses, le Granic, Issos, Gaugamel, et puis une grande bataille contre les Indiens, notamment Hydaspe. Peut-être aussi Sangala, qui va être particulièrement éprouvante et sanglante.
Alors, un stratège à la fois génial et étonnamment conservateur. Génial en ce sens qu'il a une sorte d'aptitude à saisir l'occasion, à masser les gros bataillons quand il faut, comme dira plus tard Napoléon. Un usage extraordinairement hardi pour son époque de la cavalerie, alors que l'on sort d'une époque où l'infanterie était la reine des batailles. Un usage aussi des troupes spéciales tout à fait remarquable, de la marche rapide, de la surprise. Bref, si vous voulez, tous les traits qui font classiquement le stratège génial et hardi.
Classiquement ou depuis Alexandre? Autrement dit, est-ce qu'il y a une technique Alexandre, comme on parlera d'une technique Napoléon qu'on apprend toujours à l'école de guerre?
Certainement pas. Certainement pas. Car je le répète, cet homme hardi, rapide, à l'intuition fulgurante, est en même temps, à bien des égards, profondément conservateur. Et je vais prendre un exemple précis. La cité grecque avait inventé une forme de guerre traditionnelle, si vous voulez, qu'on a considérée comme traditionnelle pendant longtemps, qui était faite pour l'affrontement des cités grecques entre elles, phalange contre phalange. Il y avait des règles, et en particulier une règle non écrite, mais fondamentale, de ce combat grec, et qu'on y attaquait par l'aile droite. Traditionnellement, l'aile droite enfonçait l'aile gauche de l'ennemi, et il arrivait que l'aile droite de l'ennemi enfonce l'aile gauche qui lui est opposée.
La plus faible.
La plus faible, parce que, encore une fois, on massait les meilleures troupes à droite. On s'est demandé pourquoi, et c'est une question qui a intrigué Thucydide au 5e siècle, qui dit au fond... On peut expliquer cela parce que chacun veut se protéger par le bouclier que porte son voisin. Alors du coup, si vous voulez, toute l'armée oblique vers la droite. Mais c'est pas une explication bien convaincante, car pourquoi tient-on le bouclier de la main gauche et pourquoi le flanc droit est-il dénué ? On tient le bouclier de la main gauche et la lance de la main droite, évidemment parce que pour la plus grande partie de l'humanité, pas pour tous, c'est la gauche qui est le côté faible et la droite qui est le côté fort. La majorité des hommes sont droitiers. Et c'est donc par adaptation, si vous voulez, à cette situation que l'on masse les meilleures troupes à droite. Or, un homme avait innové dans ce domaine et c'est le Thébain Épaminondas. Il a remporté deux victoires foudroyantes, n'est-ce pas, en 371 et en 362 avant Jésus-Christ, à Leuctre et à Mantinée, en faisant tout simplement le contraire de la tradition, c'est-à-dire en attaquant, en massant ses meilleures troupes à gauche. Est-ce qu'Alexandre fera cela ? Qui supposait une conception révolutionnaire de l'espace, un espace homogène où la droite serait sans privilège. Est-ce qu'Alexandre va faire cela ? Pas du tout. Alexandre va, dans toutes les grandes batailles que vous avez énumérées, masser ses troupes et se porter lui-même à l'aile droite. Il se conduira donc comme le plus classique des praticiens de la cité grecque. Il ne fera d'exception relative que lors des guerres qu'il mène contre des peuples qu'il méprise, contre des guerres qui relèvent plus de la guérilla et de la chasse
que de la bataille rangée.
Mais dans toutes les batailles rangées proprement dites, il utilisera la tactique traditionnelle. Bien sûr, il apporte des changements, bien sûr. Il a une armée infiniment plus variée que l'armée des cités grecques traditionnelles. Il a cette utilisation foudroyante de la cavalerie. Mais en revanche, pour tout le reste, il respecte, pour autant qu'on sache, la tradition. Et il ne cherche même pas la surprise. C'est tout à fait frappant de voir que c'est le vieux général Parménion
qui en général dirige l'aile gauche. Lui.
Oui, qui dirige l'aile gauche parce que il est le second. C'est le général Parménion qui lui suggère la ruse, qui lui dit tu devrais les surprendre pendant qu'ils dorment. Et Alexandre refuse noblement.
Il ne veut pas voler la victoire.
Il ne veut pas voler la victoire, mais ça fait partie, si vous voulez, de ce fameux échange. Alexandre Parménion, lorsque le roi propose la moitié de son royaume, Parménion dit « J'accepterai si j'étais Alexandre », et Alexandre réplique « Et moi aussi, si j'étais Parménion ».
Tout de même, on a l'impression que l'attitude d'Alexandre est beaucoup plus audacieuse que celle, par exemple, de Darius III. C'est-à-dire, Darius III semble essayer d'étudier le terrain, masser son armée de manière probablement assez conventionnelle, donc évidemment l'adversaire sait à peu près ce qui va se passer, alors que Alexandre essaie justement de le faire changer de terrain et le placer au fond dans des terrains par exemple très encaissés, très étroits, où il ne pourra pas déployer son armée comme il aurait le souhaité.
Sans aucun doute, mais il ne cherche pas à le surprendre. Il cherche à le détruire, il cherche à le battre en utilisant un meilleur emploi du terrain, mais il ne cherche pas à le tuer pendant qu'il dort, ce qu'il fait sans le moindre scrupule avec les populations qu'il méprise.
«
quand il eut trouvé un emplacement sans boue au sol, sablonneux et entièrement uni et ferme pour les charges et les évolutions de la cavalerie, Porus établit sa ligne de bataille. Il plaça d'abord ses éléphants sur la première ligne. Chaque éléphant séparait du suivant au moins d'un plêtre, pour former une ligne s'étendant devant son infanterie, lui servant de front, et aussi pour provoquer la panique dans toutes les troupes de cavalerie d'Alexandre. Il pensait qu'en aucune manière, un ennemi n'oserait pénétrer dans l'intervalle laissé entre les éléphants, ni à cheval, à cause de l'épouvante que les éléphants inspirent aux chevaux, ni à plus forte raison les fantassins. En effet, attaqué de front par l'infanterie lourde, il serait repoussé, puis foulé aux pieds par les éléphants qui se tourneraient contre eux. Derrière les éléphants, il avait placé son infanterie. Pas sur le même front que ces énormes bêtes, mais derrière elles, à peu près aux intervalles séparant les éléphants. Aux ailes débordant la ligne des éléphants, il y avait encore de l'infanterie. De chaque côté de l'infanterie, il avait placé sa cavalerie, et devant celle-ci, des chars des deux côtés. Tel était le dispositif de Porus.
Il y a tout de même l'utilisation de la ruse que l'on trouve dans la bataille d'Hydaspe.
De l'Hydaspe, oui.
Il y a des opérations de diversion, de façon à ce que justement l'ennemi ne sache pas quand il va attaquer et d'où va venir justement l'attaque.
Certainement, mais ce sont des ruses subordonnées, si vous voulez, à l'affrontement global et non pas une guerre fondée sur ce que les Grecs appelaient la métis, c'est-à-dire l'astuce, la ruse. La ruse est toujours, dans ces grandes batailles, subordonnée à l'affrontement global, ce qu'on appelle en grec la maquée.
Dès qu'il vit les Indiens rangés en ordre de bataille, Alexandre fit faire halte à sa cavalerie pour donner le temps à l'infanterie qui avançait sans interruption de rejoindre. Lorsque la phalange, approchant au pas de course, eut rejoint le reste de l'armée, il ne la mit pas tout de suite en ligne pour la conduire au combat, ne voulant pas livrer aux barbares, frais et dispos, ses propres fantassins fatigués et essoufflés. Faisant évoluer sa cavalerie en cercle, il permit aux fantassins de se reprendre jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé leur mordant. Quand il eut observé le dispositif tactique des Indiens, il décida de ne pas attaquer au centre. Là où les éléphants avaient été poussés en avant et où les formations serrées de l'infanterie avaient été placées en arrière des intervalles qui séparaient les éléphants. Les raisons de sa crainte étaient précisément celles-là même qui avaient poussé Porus, après mûre réflexion, à adopter ce dispositif tactique. Vu que sa supériorité résidait dans sa cavalerie, il prit avec lui la plus grande partie de cette cavalerie et fit mouvement en direction de l'aile gauche de l'ennemi avec l'intention d'attaquer de ce côté. Il envoya Kénos à l'aile droite, avec le régiment de cavalerie de Démétricus et le sien propre. Ordre lui était donné, dès que les barbares, voyant les formations serrées de cavalerie qui attaquaient leurs propres troupes, s'élanceraient contre leurs flancs, de les attaquer par derrière. Il désigna Séleucus, Antigénès et Thoron pour le commandement de la phalange d'infanterie. Il ne devait pas l'engager dans l'action avant de voir l'infanterie et la cavalerie ennemie rompues par ses propres troupes de cavalerie. Il était déjà à moins d'une portée de trait quand il lança contre l'aile gauche des Indiens ses archers à cheval au nombre de 1000 environ pour rompre les formations ennemies de ce côté par la densité des traits et la charge de la cavalerie. Puis lui-même, avec la cavalerie des compagnons, s'élança rapidement contre l'aile gauche des barbares pour profiter tout de suite du désordre qui y régnait pendant qu'elle était encore en colonne et la charger avant que les barbares aient pu déployer leur cavalerie en ligne de front.
« Paul Koukowski, vous êtes professeur d'histoire de l'Antiquité à l'Université de Nancy II et vous avez consacré, en tant que spécialiste d'Alexandre, votre thèse à un essai sur les origines du mythe d'Alexandre. Alors, à travers les grandes batailles conduites par Alexandre contre les Perses et contre les Indiens, celles du Granique, celles d'Issos, de Gaugamel, de l'Hydaspe ou bien de Sangala, est-ce qu'il y a chez Alexandre stratège un véritable génie de la guerre et je dirais même un modèle du guerrier?
J'ai parcouru tout ce qui se publie depuis plusieurs décennies sur Alexandre comme stratège. Et je vous dirais que personne jusqu'à présent n'a réussi à donner une image claire des trois principales batailles, celle du Granique, celle d'Issos et celle de Gaugamel. Pour la bataille du Granique, on n'arrive pas à savoir si elle a eu lieu sur l'ancien lit du fleuve ou sur le lit actuel du fleuve. Il y a là une discussion qui continue et qui risque de continuer encore longtemps. Pour la bataille d'Issos, c'est encore plus compliqué, parce qu'on a le choix entre deux fleuves, et on n'a pas encore réussi à trancher. Les deux hypothèses se défendent avec d'excellents arguments. Quant à la bataille de Gaugamel, c'est, permettez-moi de le dire, l'obscurité complète, parce qu'il y avait un immense nuage de poussière, il faisait très chaud, il y avait du vent, la cavalerie et l'infanterie ont soulevé énormément de poussière, personne n'y a rien compris. Vous allez me dire que nous disposons d'une bonne source qui est Arrien, parce que Arrien a fait une solide expérience militaire, c'est vrai. Cependant, je vais faire tout de suite un reproche à Arrien. Supposez un historien moderne qui veuille décrire, mettons, la bataille du Granique, et qui habite, ou qui a habité à certaines époques de son existence, Nicomédie. Nicomédie et le Granique, c'est vraiment la porte à côté. Qu'est-ce que vous feriez? Vous iriez immédiatement voir le champ de bataille avec votre rouleau de Ptolémée et vous essayeriez de replacer les choses sur le terrain. Il s'est bien gardé de le faire tout simplement. Ça n'est pas par négligence de sa part. C'est tout simplement parce qu'il y a une tradition de l'historiographie, non pas grecque, mais latine, qui témoigne d'une certaine indifférence à l'égard des réalités topographiques et des réalités tactiques. On écrit un récit de bataille en recopiant plus ou moins sa source, un point c'est tout. Et vous savez que pour la bataille du Granique, il y a une énorme bourde d'Arien. Il n'a pas réussi à comprendre ce qui s'est passé lorsque la colonne macédonienne est passée de l'ordre de marche à l'ordre de bataille, et il a ainsi doublé deux unités de la phalange. À une certaine époque, on présentait Arien comme un grand spécialiste de la chose militaire, et la tendance actuelle est au contraire de minimiser ses connaissances dans ce domaine et de montrer qu'il a commis autant d'erreurs que les autres historiens d'Alexandre.
Est-ce que c'est votre position en tant justement qu'historien d'Alexandre?
C'est ma position. Je crois que l'armée romaine, telle qu'elle fonctionne à l'époque d'Arien, et telle qu'il la connaît pour l'avoir fait manœuvrer lui-même, elle est tellement différente de l'armée macédonienne telle qu'elle existait à l'époque d'Alexandre, qu'il a commis inéluctablement des erreurs, et des erreurs graves, et nous avons beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre un certain nombre d'opérations, justement parce qu'il a transmis les choses un peu de travers.
Quand on lit Arien, on a l'impression que les armées qui se déploient sont des armées tout à fait considérables. Il y a des chiffres peut-être sur lesquels les historiens ne sont pas tous d'accord, mais on a l'impression que les forces en présence sont tout à fait énormes. Et surtout, après ces batailles, que les pertes sont gigantesques.
Les pertes sont certainement considérables.
Maintenant, alors, finalement, quelle est l'ampleur de cette armée d'Alexandre qui se déplace
c'est très difficile à dire, vous savez,
de Macédoine en Inde?
C'est très très difficile à dire. Je pense personnellement que si l'armée d'Alexandre a jamais atteint 100 000 hommes, c'est un peu un maximum. Je ne pense pas qu'il faille se représenter des armées comme Hérodote représente l'armée perse dans la guerre médique.
Alors, comment est composée cette armée d'Alexandre?
Elle est extraordinairement variée. Elle comporte un noyau macédonien avec, si vous voulez, une garde à cheval et les pezzetaires, qui forment le cœur de la phalange, c'est-à-dire les compagnons à pied. Il y a les compagnons à cheval et il y a les compagnons à pied. Et puis, il y a un nombre de représentants des cités grecques qui ne seront jamais que 7 à 8 000. Il y aura toujours beaucoup plus de Grecs dans l'armée de Darius que dans l'armée d'Alexandre. C'est un paradoxe qu'il ne faudrait pas oublier, mais il mourra beaucoup plus de Grecs du côté perse que du côté macédonien.
Les Grecs sont à peu près moitié moins nombreux que les Macédoniens.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Donc environ 15 000 Macédoniens entre cavalerie et infanterie.
C'est ça. Et
7 000 Grecs.
7 000 Grecs.
Et puis alors, il y a la masse des mercenaires.
Et puis, il y a la masse des mercenaires qui sont souvent des mercenaires pris à l'ennemi, n'est-ce pas, que l'on retourne. Et puis, il y a la masse de ceux que l'on engage au fur et à mesure que l'on avance, que l'on recrute chez les Perses, chez différents peuples, notamment des peuples cavaliers, et que l'on recrutera jusqu'au bout.
Pierre-Yves Laquais, Alexandre n'est pas qu'un stratège, il ne se contente pas de concevoir les plans d'une bataille, il est aussi un acteur de première ligne dans ses combats. On le voit dans le récit d'Arien, prenant vraiment tous les risques, souvent en première ligne, se désignant même par sa tenue, par son cheval, devenant une sorte de cible pour les flèches et les coups. Or, il va être blessé à de nombreuses reprises dans ses combats. On le voit par exemple atteint d'une flèche qui lui traverse la jambe et lui brise le péroné. Ensuite, dans le siège de Scyropolis, il est frappé d'une pierre à la tête et au cou. Il va ensuite être blessé par une flèche à l'épaule, près du fleuve Loès. Il est ensuite blessé par une flèche à la cheville au siège de Massaga. Et puis surtout, il va recevoir, probablement c'est sa blessure la plus grave, une flèche dans la poitrine, dans la citadelle des Mâles, où d'ailleurs il manque périr, mais il est protégé justement par les siens. Et finalement, il est sauvé, il s'en sort absolument miraculeusement.
À ce moment, Peucestas, le double solde Abréas et sur leur talon Léonatos, qui se trouvaient être les seuls à avoir pu monter sur le rempart avant que les échelles d'assaut ne se brisent, sautèrent eux aussi à bas du rempart et couvrirent leur roi en combattant. Atteint d'une flèche dans la figure, le double solde Abréas fut tué net. Alexandre lui aussi fut atteint d'une flèche qui traversa la cuirasse et pénétra dans la poitrine au-dessus du sein, de sorte que, d'après Ptolémée, à chaque expiration, il sentait en même temps de la blessure, de l'air et du sang. Lui, tant que le sang resta chaud, continua à se défendre malgré sa souffrance. Mais comme le sang s'échappait en abondance, vu qu'il sortait en même temps que l'air expiré, il fut pris de vertige et de faiblesse et s'affaissa sur place, lui et son bouclier penchés l'un contre l'autre. Pendant qu'il gisait là, Peucestas s'efforçait de le couvrir et tenait au-dessus de lui le bouclier sacré de Troie. Lui et Léonatos, de l'autre côté, était criblé de traits, tandis qu'Alexandre était déjà sur le point de perdre connaissance du fait de l'hémorragie. En effet, l'assaut des Macédoniens était bloqué dans ce secteur. Parce que quand ils avaient vu leur roi exposé aux tirs ennemis sur le rempart, puis sautant dans la citadelle, poussés par leur ardeur et la crainte qu'il n'arrive quelque chose à ce roi qui s'exposait au danger d'une façon aussi insensée, ils avaient brisé les échelles d'assaut et, dans leur impuissance, cherchaient chacun de leur côté un moyen pour monter sur le rempart. Les uns enfonçaient des chevilles dans le rempart qui était fait en terre et s'y accrochant ils se hissaient péniblement. Certains montaient sur les épaules les uns des autres. Le premier monté se jeta du rempart dans la ville, là où ils voyaient leur roi étendu sur le sol, tous mêlant de gémissements leurs cris de guerre. Tout de suite, un combat acharné s'engagea autour du roi à terre, qu'il protégeait en tenant devant lui leurs boucliers à tour de rôle. Entre-temps, certains avaient fait sauter le verrou qui tenait fermé la porte de la courtine, et ils s'introduisaient par petits groupes. D'autres, faisant pression avec l'épaule sur la partie de la porte entamée, la poussèrent vers l'intérieur du rempart et ouvrirent par là un accès à la citadelle.
Pourquoi prend-il tous ces risques ?
Mais parce que la conception de la royauté qu'il représente, qu'il incarne et qui sera incarnée après lui par tous les monarques hellénistiques, même les plus faibles et dans une certaine mesure aussi par les empereurs romains, n'oubliez pas qu'impérateur, c'est un titre militaire. La conception de la monarchie qu'il a, c'est une conception militaire. Les terres acquises sont acquises, on dit ça en grec, doric tetos, c'est-à-dire acquis par la lance. Et c'est dans la mesure où il est un grand homme de guerre, qu'il est un souverain, son empire est une création de la guerre. C'est par là, si vous voulez, que l'on peut parler d'une monarchie personnelle. La monarchie qu'il fonde est et sera une monarchie guerrière, et il est normal que le souverain prenne à ce point de vue-là tous les risques. Ajoutez à cela qu'Alexandre est nourri d'Homère, qu'il se présente, et probablement il se vit lui-même, comme le nouvel Achille, que bien entendu, les Grecs avaient enseigné et pratiqué un autre art militaire que celui de la monarchie héroïque. Mais, chose remarquable, cet art militaire collectif, qui est celui de la phalange, il l'avait fort peu représenté. Si vous prenez les vases du 5e siècle avant Jésus-Christ, ce qu'on a appelé la cité des vases, eh bien vous y verrez que vous n'avez pas une représentation de guerre sur 10 000 qui soit une représentation collective. Vous avez des héros qui s'affrontent. Or, Alexandre ne vient pas d'une cité grecque, si vous voulez, il vient d'un peuple conduit par un monarque avec une représentation héroïque du monde. C'est tout cela qui fait de lui donc le nouvel Achille.
Les inconnus de l'histoire enquêtent sur un grec d'Orient, militaire de l'Empire romain d'Adrien et historien d'Alexandre le Grand, Flavius Arien, par Jean Montalbetti. Médiateur, Pierre Vidal-Naquet, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur d'un essai sur Flavius Arien entre deux mondes, édité par les éditions de Minuit, avec une nouvelle traduction de Pierre Savinel de l'Anabase d'Alexandre. Expert Henri Tenet, professeur de grec moderne au Langzo, Pierre Briand, professeur à Toulouse 2, et Paul Goukowski, professeur à Nancy 2. Les textes de l'Anabase d'Alexandre le Grand, traduits par Pierre Savinel, ont été dits par Philippe Moreau. Prise de son, Jean-Pierre Gerbeau et Daniel Labigne. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Réalisation, Jean-Claude Loiseau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 mars 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site francecultures.fr à la page des nuits.